Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Mathilde Barbier, Fanny Richet, Émilie Chaudet, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Jean-Guy Lamège. Cultiver dans les écoles 20 302 votes, trier ses déchets au plus près 17 198 votes, des kiosques pour faire la fête 14 056 votes. Voici quelques-uns des projets gagnants ayant fait l'objet d'une consultation publique des Parisiens ces dernières semaines dans le cadre du budget participatif de la ville. Il s'agissait de répartir des crédits en fonction de l'intérêt et du coût des projets proposés par la municipalité. Alors, cette expérience ne se limite évidemment pas à Paris. De plus en plus de collectivités locales proposent aux citoyens de participer à certaines prises de décision. Une façon de légitimer celles-ci en leur donnant l'assise démocratique la plus large possible. Une façon aussi de faire vivre le débat en dehors des seuls rendez-vous électoraux. Pour autant, ces initiatives restent rares dans un pays marqué par les règles de la démocratie représentative qui fondent la légitimité des décisions sur ceux qui ont été élus pour les prendre. Alors ce modèle est-il encore pertinent? Avec les mobilisations contre le projet du barrage de Sivens ou contre celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on a vu à quel point il pouvait être ce modèle sinon contestable, en tout cas contesté, au moins dans sa version locale. Alors, qui peut juger de la légitimité d'une décision politique? C'est notre sujet du jour. Trois invités pour en discuter. Fabienne Brugère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à Paris 8. Vous avez publié cette année chez Bayard « Qui a peur des philosophes ?». Je citerai un autre de vos livres « Faut-il se révolter ?». C'était en 2012 chez le même éditeur. Et j'ajoute que par ailleurs, vous avez présidé jusqu'en juin 2013 le Conseil de développement durable de l'agglomération bordelaise, une assemblée citoyenne. Ce sera intéressant justement que vous nous fassiez part de votre expérience en la matière. Pour discuter avec vous donc ce soir, Gérald de Bronner, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. On vous doit en 2013 au PUF La démocratie des crédules et vous avez publié en septembre dernier, là aussi au PUF. Vous aussi, vous êtes fidèle à votre maison d'édition.
Je suis loyal.
La planète des hommes, réenchanter le risque. Notre troisième invité, c'est Pierre-Henri Tavoyau. Bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne. Vous publiez ces jours-ci aux éditions de l'Aube « Faire ou ne pas faire son âge ». Et autre publication que je vais citer, alors là c'est chez Grasset en 2011, « Qui doit gouverner une brève histoire de l'autorité ». Puisque c'est avec vous que j'ai terminé les présentations, Pierre-Henri Tavoyau, c'est avec vous que je vais commencer ma première question, puisque ce soir, on va être évidemment amené à tenter de définir ce qu'est une décision légitime. Alors, première tentative d'explication, vous allez me dire si elle est la bonne. Est-ce qu'une décision légitime, c'est une décision qui emporte l'adhésion de la majorité, en tout cas d'une large part de ceux à qui cette décision est destinée?
Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais je pense que c'était le sens de votre question, parce qu'effectivement, la règle de la majorité, l'intérêt, tout ça peut être remis en cause. Une décision de la majorité peut opprimer une minorité. Enfin, il y a toute une série d'obstacles. Mais il me semble que, en fait, une décision légitime, c'est une décision qui respecte au moins quatre étapes dans un processus, qui est finalement le processus de la démocratie. Si on le résume à quelque chose de très simple, c'est quatre moments. Un moment d'élection, il faut effectivement des gens qui soient élus, me semble-t-il, c'est important. Un moment de délibération, un moment de décision et un moment de reddition de compte. Peut-être c'est ce point qui est important en démocratie, c'est le fait qu'à un moment donné, on quitte le pouvoir et il faut rendre des comptes de cette décision. Si ces quatre étapes sont respectées, me semble-t-il, on a, disons, un processus légitime. Ça ne veut pas dire que la décision soit bonne. C'est là où les choses sont compliquées parce qu'effectivement, une mauvaise décision qui donne lieu à reddition de comptes, eh bien on peut dire que ce n'était pas la bonne et donc la critiquer. Mais au moins, le processus était, me semble-t-il, légitime puisque c'était le sens de votre question.
Est-ce que c'est plus pour vous, Fabienne Brugère, la façon dont la décision est prise qui la rend légitime que la façon dont elle est perçue? L'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. Mais...
La façon dont la décision est prise est importante. Si on estime qu'on est vraiment en démocratie, on doit à ce moment-là vraiment penser à un pouvoir du peuple. Et d'une certaine manière, on peut même jusqu'à aller à penser finalement une co-construction des gouvernants avec les gouvernés. Cette co-construction, elle suppose à ce moment-là de mettre en avant des procédures de participation qui soient les plus authentiques possibles. Et dès lors, bien évidemment, la manière dont se constitue la décision, la manière dont elle est aménagée, dont elle est réalisée sur un temps à ce moment-là, qui est forcément un temps assez long et qui suppose des délibérations, qui suppose de l'écoute, c'est évidemment essentiel dans la construction de la légitimité.
Gérald Bronner.
D'abord, je voudrais rappeler que la notion de légitimité politique, elle est variable au cours du temps, au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des formes de légitimité qui nous paraissent aujourd'hui naturelles parce qu'elles sont démocratiques et que nous sommes démocrates. Mais par le passé, il y a des formes de légitimité de type charismatique, par exemple, ou traditionnelle, qui sont fondées sur le droit du sang à gouverner ou des choses comme ça. Évidemment, tout ça nous paraît loufoque en tant que démocrate, mais c'est bien pour montrer que dans le fond, ce dont on est en train de parler, la légitimité n'est qu'une conséquence d'un certain nombre de débats préalables. Et le symptôme que nous vivons aujourd'hui avec le simple fait qu'il y ait une émission de radio s'interrogeant sur la question de la légitimité, c'est que nous sommes à un carrefour probablement démocratique. Et d'ailleurs, ce n'est pas très étonnant car il y a un certain nombre de grandes enquêtes mondiales, je pense aux enquêtes de Engelhardt par exemple, sont des études à travers un certain nombre de pays pour évaluer la valeur, les valeurs des concitoyens de ce pays, sur la religion, la politique, etc. Et ce qu'on voit très nettement poindre, notamment dans les classes les plus jeunes, c'est que ce n'est pas un aveux de l'autorité dans les démocraties, hein, les jeunes comprennent la notion d'autorité, mais en revanche, il y a une mise à distance de l'autorité de type charismatique ou traditionnel, c'est-à-dire qu'ils réclament en quelque sorte une forme de rationalité dans l'administration du pouvoir, et c'est de ça dont on débat ce soir.
Pierre-Henri Tavoyot.
Oui, si on peut un peu lancer le débat, je trouve que la question de la participation, évidemment, est très séduisante. Et je pense qu'effectivement, c'est souvent la condition de l'efficacité d'une décision que de mouiller, si je puis dire, le plus de gens possible dans la prise de cette décision. D'une certaine façon, du point de vue utilitariste, c'est le moyen de rendre cette décision applicable et efficace.
Alors plus on est nombreux à avoir participé à cette prise de décision de manière directe ou indirecte, oui, plus il y a des chances que cette décision soit légitime et qu'elle le soit longtemps.
Alors, en tout cas, légitime, oui, on peut dire légitime, en tout cas, qu'elle suscite une adhésion. Donc ça entraîne en quelque sorte l'adhésion. Mais on peut faire un certain nombre de réserves qui sont des réserves, attention, soyons bien clairs, qui ne sont pas des réserves radicales, mais qui sont des réserves du point de vue de la validité, en quelque sorte, de la procédure participative. Une première réserve, qui est peut-être la plus fondamentale, c'est le fait que qui sera responsable ? C'est-à-dire, dans une logique de reddition de comptes, que je disais tout à l'heure, il faut rendre des comptes, si tout le monde décide, qui sera responsable, le cas échéant, d'une mauvaise décision ? Donc ça pose un premier problème. Deuxième point, il y a beaucoup de dossiers qui n'intéressent pas forcément. Voilà. Est-ce que on se focalise sur la participation sur des dossiers chauds, des dossiers qui intéressent, mais quid des dossiers qui n'intéressent pas ? Est-ce que c'est dans la... Je reviens sur les deux dernières objections. Est-ce que c'est pas non plus se soumettre à ceux qui ont le temps ? C'est-à-dire ceux qui ont le temps de participer. On pense au syndic de propriété, par exemple. On a tous cette expérience. Il y a dans un syndic de propriété...
Condition d'avoir été propriétaire.
Non, mais enfin, oui, de près ou de loin. Ou un conseil d'école. Prenons un conseil d'école. Il y a des gens qui... J'allais dire, pardon, mais un peu méprisant de dire ça, qui ont que ça à faire et qui, dont la fonction est un peu d'emmerder le peuple ou en tout cas d'être ultra-pointilliste. Vous voyez le portrait que j'essaie de dessiner. Donc, la question, c'est... Qui a le temps de participer ? Est-ce que tout le monde a le temps de participer ? Est-ce que nous sommes égaux devant le temps de participation ?
Alors justement, Fabienne Brugère, donc je rappelle, hein, vous étiez au Conseil de développement durable de l'agglomération bordelaise, la CUB, c'est-à-dire la communauté urbaine de Bordeaux. Est-ce que vous avez pu constater que parmi les gens qui participaient à cette démarche de participation citoyenne, en fait, c'était essentiellement des gens déjà qui avaient le temps et puis qui étaient peut-être les plus politisés à la base ?
Oui, bien sûr, dans beaucoup de processus de participation, il y a forcément des gens qui ont du temps, des gens aussi qui sont reconnus, des gens qui sont engagés. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que tout simplement, une décision politique, elle doit se construire sur une temporalité et sur une temporalité qui aboutisse bien évidemment au travail des politiques, à leur travail de décision. Mais avant, il y a la place des acteurs. Si on est, par exemple, dans le domaine d'une décision politique qui concerne, par exemple, un barrage, eh bien, précisément, il y a un certain nombre d'acteurs qui doivent être consultés. De la même manière, il y a aussi, sur un certain nombre de questions, des usagers. Les usagers des transports en commun, par exemple, ils doivent être consultés en ce qui concerne une décision sur les transports en commun.
Vous voulez dire, c'est qu'il ne s'agit pas de consulter n'importe qui, mais au moins les premiers concernés.
Les premiers concernés, c'est-à-dire à la fois, d'une part les experts, d'autre part les acteurs et les usagers, mais aussi ce qu'on appelle les citoyens ordinaires. C'est-à-dire qu'il faut être pluraliste en matière de participation. Il faut pouvoir toucher précisément des personnes qui vont avoir des perspectives et des points de vue différents. Il est bien évident qu'après, la décision, c'est celle de l'homme ou de la femme politique, mais qui est en quelque sorte éclairée. Et ce qui permet bien évidemment de construire sur un certain nombre de questions, eh bien des points de vue différents, et de faire que, par exemple, sur une affaire de barrage, on n'a pas seulement le point de vue des agriculteurs, mais on a aussi le point de vue, par exemple, des écologistes, on a aussi le point de vue, par exemple, de ceux qui habitent autour. C'est l'idée de construire des points de vue.
Donc il ne s'agit pas seulement, Gérald Bronner, dans les questions de démocratie participative, d'attendre que les gens viennent spontanément, parce qu'on peut avoir affaire presque à des professionnels de la mobilisation citoyenne, mais il faut aussi organiser les choses pour qu'on fasse intervenir des gens qui sont concernés, mais qui ne viendraient peut-être pas spontanément.
Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. En effet, je pense que c'est un des cœurs du problème, et c'est peut-être la façon dont moi j'aborde le problème. C'est-à-dire que mon premier souci a été, quand j'ai essayé de réfléchir sur ces questions, d'avoir une réflexion plutôt méthodique. Et en fait, essayer de désincarcérer si possible le problème de sa gangue idéologique, parce qu'il y a une charge idéologique très forte dans ce problème. Donc effectivement, je crois, comme l'a bien dit Pierre-Henri Tavaillot, la question est quelquefois très terre-à-terre. C'est-à-dire combien de temps on a à consacrer à ces processus, et j'irais même au-delà du temps, je dirais quelle est notre motivation. Est-ce que la motivation, elle est bien équirépartie dans un bassin de vie sur une question? Et je ne le crois pas du tout. Et c'est ça un des terribles enjeux de la démocratie participative ou délibérative. Parce qu'en réalité, cette question, elle met en scène, comme toujours en démocratie, la question de l'intérêt général et de l'opinion publique. Seulement, le risque que nous fait prendre les processus de démocratie participative, c'est de mettre en scène, de façon fictive, l'opinion des populations. Où est vraiment l'opinion de la population? La majorité, si on considère que la majorité est un des éléments possibles de la légitimité. Mais on a vu tout à l'heure, il fallait prendre cette notion avec des pincettes. Donc effectivement, si vous laissez ces instances fondées seulement sur la motivation des individus et par exemple sur le volontariat, eh bien vous allez, c'est pas très difficile de l'anticiper, avoir une surreprésentation des individus les plus motivés, c'est-à-dire souvent les plus militants sur des questions qui ne sont pas du tout représentatifs de l'opinion des citoyens d'un bassin de vie.
Mais en même temps, pourrait-vous rétorquer, Gérald Bronner, que si des individus participent à une prise de décision sans être motivés, ça fragilise justement la légitimité de la décision?
Mais vous avez parfaitement raison, c'est un vrai problème. Je ne sais pas s'il est tout à fait légitime de mettre à distance ceux qui sont les plus motivés à vouloir participer à la question. Mais d'un autre côté, si vous laissez faire les choses un peu partout, vous voyez bien que l'intérêt général, si ce n'est pas un trop gros mot, il est fragmenté dans des tas de bassins. Et ce qui relève de l'intérêt, par exemple, d'associations militantes dans un bassin, d'empêcher, par exemple, le passage d'une ligne à très haute tension, la diffusion de l'électricité pour tous, c'est bien une question d'intérêt général. Ou le passage de rails, par exemple, pour construire un TGV, ou d'une autoroute, etc. Je ne dis pas qu'il faut mettre des autoroutes partout, mais ce sont des questions qui sont globalement d'intérêt général. Donc si vous fragmentez l'intérêt général par des bassins de vie, que vous laissez ces bassins de vie aux prises avec les plus motivés, il n'est pas certain que vous alliez dans le sens de l'intérêt général, disons, d'une communauté élargie à une nation.
Ça pose la question de la nécessité ou pas de la proximité, Fabienne Brugère.
De la nécessité de la proximité, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile de construire des politiques de participation quand on est sur un territoire précis, à des échelles, disons, locales ou régionales. Au niveau national, c'est beaucoup plus difficile. Après, pour reprendre ce que disait Gérald Bronner, on pourrait dire que peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire, mais en même temps, ce sont parfois des gens qui, lorsqu'ils sont engagés dans un processus, se rendent compte tout d'un coup qu'ils en ont quelque chose à faire. Et par exemple, dans le Conseil de développement durable, on avait prévu la possibilité d'entrer dans ce conseil par tirage au sort. Et donc, on a fait un tirage au sort de citoyens de l'agglomération bordelaise. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas venus, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, mais il y a aussi des gens qui ne s'y attendaient pas du tout, qui ne savaient pas du tout où ils allaient mettre les pieds, et qui, une fois dans ce conseil de développement, eh bien, se sont tout d'un coup retrouvés motivés, ce qu'ils n'étaient pas au départ. Donc, il y a aussi le fait de pouvoir faire tout d'un coup.
Alors justement, sur cette question du tirage au sort, il y a un autre domaine dans lequel cette procédure-là existe pour la participation à la prise de décision, c'est la justice et les assises. On tire au sort des jurés à qui on donne le temps en les indemnisant, davantage d'ailleurs qu'en les rémunérant, pour participer à des procès d'assises. Pierre-Henri Tavoyot, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à imaginer de tirer au sort des gens qui, pendant un laps de temps déterminé, pourraient participer aux décisions politiques, même s'ils ne s'en sentent pas l'envie profonde à la base?
Je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Encore une fois, si je reprends mon petit modèle, je vois bien qu'il n'a pas de succès, mais le moment de la délibération et le moment de la décision sont deux moments différents. Délibérer et décider. Qu'il y ait une ouverture au niveau de la délibération et une participation importante au moment de la procédure de délibération, je pense que c'est tout à fait légitime et souhaitable. D'une certaine manière, il y a toute une série de procédures qui existent sur ce même modèle, ce qu'avait fait Leonetti à propos de la
fin de vie. Jean
oui,
Leonetti,
non,
c'est
avant,
ça
avant. Oui, Jean Leonetti, mais avant, pas sur la question de la fin de vie, sur la question doit-on louer vendre le ventre sur la GPA, etc. Il a fait toute une enquête. D'abord, il s'était dit, on va faire un forum internet. Voilà, et puis les gens vont discuter. Le forum a été saturé par les organisations militantes pour ou contre. Normal. Voilà. Donc on est typiquement dans le cadre d'une procédure bloquée. Donc il a adopté une autre formule, je trouve très intéressante, qu'on appelle les conférences de consensus. Effectivement, par tirage au sort, on réunit un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout compétentes, qui sont représentatifs, mais de façon aléatoire, de la population française. Et c'est comme vous et moi, des gens qui n'ont pas réfléchi à la question, qui ne sont pas compétents. Simplement, on les rend compétents. On les rend compétents par toute une série de conférences, d'auditions. Donc, c'est des gens qui s'engagent un peu pour longtemps. Et puis, après, on les enferme dans un beau château, dans un bel endroit, et on leur dit, ben voilà, décidez. Enfin, en tout cas, émettez un avis. C'est pas décider, justement. C'est émettez un avis qui va pouvoir nous intéresser. Alors, je trouve que c'est une bonne démarche de délibération, qui fonctionne sous cette forme. Il y en a une
ça
autre.
Ça permet de régler en plus la question de la sélection de ceux qui participent, justement, à la délibération. Voilà. De se dire, qui on prend, des experts,
ça
pas des experts.
Ça donne une opinion construite. C'est-à-dire que c'est ça qui est le point important. Ça donne une opinion construite. L'opinion, c'est quelque chose qui est différent de la conviction ou de la croyance. La croyance, c'est ce que je crois personnellement, mais je sais que, voilà. Le savoir, la science, c'est la vérité, d'une certaine façon. Entre les deux, il y a l'opinion. C'est douteux. Et je construis une opinion par rapport à ma croyance. Ma croyance, c'est ce que je crois, mais je ne suis pas prêt forcément à le dire à la radio. L'opinion, je suis prêt à le dire à la radio parce que je l'ai construit, je l'ai argumenté et je peux accepter des objections. Voilà, ça c'est je pense, une possibilité. L'autre possibilité, là aussi, en demandant à des comités d'éthique de fonctionner, je trouve très intéressant, ce qu'ils ne font peut-être pas assez, c'est au lieu d'émettre un avis en disant, voilà, le comité national d'éthique a dit que sur la fin de vie, tac. C'est de dire, voilà les argumentations concurrentes. C'est-à-dire, nous avons examiné, nous avons 5, 4, 10 argumentations concurrentes puissantes. Nous vous les présentons avec les arguments pour et les arguments contre. Après, on peut dire ce qu'on pense, mais au moins la présentation des positions en présence. Voilà, là, il y a une structuration du débat qui me paraît très positive dans l'espace public.
Alors, pour garder votre structuration du débat, justement, Pierre-Henri Tavoyot, avant de faire à nouveau réagir et Gérald Bronner et Fabienne Brugère, juste une précision sur ce que vous dites, puisque vous distinguez le temps de la délibération du temps de la décision. C'est-à-dire que, autant la délibération peut être un processus collectif, autant pour vous, le moment de la décision ne peut pas être aussi collectif.
Non.
Pour quelle raison ?
Parce qu'effectivement, celui qui décide doit être responsable. Et s'il y a une collectivité, la collectivité ne sera jamais complète au moment de la décision, et donc la responsabilité sera diluée. Donc ça me paraît très nocif. La reddition de comptes, qui est un processus indispensable en démocratie, ne pourra pas s'exercer. J'ajouterai juste un point. C'est qu'en démocratie, nous sommes vraiment très fervent de l'élection. Nous adorons la délibération. Vous savez, à cette image, la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Donc ça peut durer un certain temps. Nous adorons la reddition de comptes. Nous avons beaucoup plus de mal avec ce moment de la décision. Et pour moi, stratégiquement, aujourd'hui, dans le monde contemporain, dans la démocratie contemporaine, c'est un moment qu'il faut protéger. Il faut protéger le moment de la décision.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Gérald Bronner et Fabienne Brugère? Gérald Bronner.
Oui, moi, à titre personnel, je suis tout à fait d'accord. Même si, à la limite, ça peut sembler étonnant, mais ce que vient de dire Pierre-Henri Tavaillot peut paraître politiquement incorrect dans l'espace public. Donc, c'est ça qui m'étonne. Mais moi, en tout cas, moi, je suis tout à fait d'accord. J'ajouterais que ce qui vient d'être dit, toutes les précautions, tout le caractère technique de la démocratie délibérative, qui est absolument nécessaire, hein, montre quand même qu'on n'en est encore qu'au béaba. En réalité, il faut une ingénierie sociale pour penser ces questions-là, parce que malgré toutes ces prudences, par exemple, le tirage au sort, la formation préalable, vous savez, il y a eu les sondages délibératifs de Fishking, par exemple, aux États-Unis, l'expérience des conférences de consensus est née au Danemark, on a beaucoup d'expérience sur ces questions, mais malgré toutes les précautions qu'on peut avoir, la formation est très importante, il y a encore des effets psychosociologiques qui peuvent lester les délibérations. Je vais en prendre un seul exemple, il y en a beaucoup, mais un exemple, l'effet de polarisation. On sait que sur un certain nombre de sujets, les groupes ont tendance à avoir une position plus radicale que la moyenne des avis individuels qu'ils pouvaient avoir avant la délibération. Vous voyez, ça, c'est un obstacle qu'on ne peut pas facilement lever. Donc, je ne dis pas qu'il faut reculer sur ces questions. Il faut y aller, mais je pense qu'il faut y aller doté d'une forme d'ingénierie sociale.
Sur cette question de la responsabilité de la décision, Fabienne Brugère, si je garde mon parallèle avec ce qui se passe dans les cours d'assises, des jurés vont décider d'attribuer une peine à une personne qui passe en procès. Imaginons que derrière le jugement soit cassé. Ça ne met pas forcément en cause la responsabilité collective des jurés, ça met en cause la responsabilité de la justice. Alors, en tout cas, est-ce que ce parallèle est valable? Est-ce que finalement, une décision ne peut pas malgré tout être collective, quitte à déléguer la responsabilité de cette décision, la responsabilité presque juridique, à une personne en particulier?
Oui, moi je crois qu'il y a des décisions collectives. Si je reprends l'exemple bordelais et la construction du futur pont qui sera entre Bordeaux, Bègles et Floirac, il y a eu là un choix collectif des élus, du conseil de développement, d'instances de citoyens, d'architectes, pour choisir le modèle de pont. Et de ce fait, à ce moment-là, c'est bien une décision collective qui procède d'un vote. Ce qui ne veut pas dire après qu'il n'y a pas bien évidemment une différence entre une valeur, je dirais, d'usage qui est davantage celle des citoyens, une valeur d'ouvrage qui est davantage celle de l'homme politique et qui d'une certaine manière est peut-être, disons, la figure de la décision, celui qui assume la décision, et puis une valeur, une maîtrise d'œuvre technique qui consiste à renvoyer à ceux qui mettent en œuvre la décision. Mais je crois quand même que la différence entre la délibération et la décision, c'est très bien, mais ça ne fonctionne pas toujours dans le réel. Ça ne fonctionne pas toujours dans le réel, ne serait-ce que parce que ce qui embête le plus les politiques actuellement, c'est finalement les groupes contestataires, c'est les résistances, c'est le fait que face à une décision politique, il y a précisément des contestations et que ces contestations, souvent, on n'arrive pas à les faire rentrer dans des modèles justement de délibération. Parce que précisément, il y a à la fois de l'irrationalité, il y a en même temps peut-être des voix qui estiment qu'elles n'ont pas été suffisamment écoutées et qui du coup ne veulent pas rentrer dans un modèle délibératif. Donc le grand échec aujourd'hui, c'est celui qu'est-ce qu'on fait des résistances, qu'est-ce qu'on fait des voix contestataires, et je ne suis pas sûre qu'on puisse toujours les faire rentrer dans un modèle délibératif parce que c'est un peu pouvoir contre pouvoir.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Qui peut juger de la légitimité d'une décision politique? C'est la question que nous évoquons ce soir avec Fabienne Brugère, Gérald Bronner et Pierre-Henri Tavaillot. On parle beaucoup, alors ça ne date pas d'hier, de la crise de la démocratie représentative. Alors pour rester sur votre logique, Pierre-Henri Tavaillot, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le nouveau modèle de la démocratie représentative, ça ne serait plus de déléguer un ensemble de décisions qu'on ne connaît pas forcément à l'avance à un représentant, mais ça serait plutôt de lui faire assumer la responsabilité de décisions prises au cours de délibérations collectives. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut imaginer l'évolution de cette démocratie?
Alors,
Il faut rappeler que la théorie de la représentation démocratique, c'est pas l'homme politique n'est pas un porte-parole, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on appelait le mandat impératif, c'est-à-dire qu'on vote pour quelqu'un parce qu'il a un programme et il ne doit pas sortir de ce programme.
Voilà, le mandat impératif qui est interdit par la Constitution.
Par la Constitution. Cinquième. Donc le modèle français, le modèle démocratique de façon générale, qu'il soit américain ou français d'ailleurs, c'est on fait confiance pendant 5 ans à un homme politique qui va pouvoir faire ce qu'il veut, même le pire, même changer de camp dans d'ailleurs, ça se voit, ça arrive, et ne pas tenir ses promesses. Mais simplement, il y aurait une reddition de compte avec cette expérience qui est la démocratie par excellence, hein, l'expérience de quitter le pouvoir et de rendre des comptes. Quitter le pouvoir, c'est vraiment de faire ses cartons, de partir. Je pense que c'est ça, phénoménologiquement, l'expérience démocratique, c'est ça. C'est ce qu'au moment du printemps arabe, on demandait à des gens qui restaient au pouvoir. Fous le camp, va-t'en. Donc, c'est ça la représentation. Alors, la question de la représentation est très belle en théorie. Toute la question est de savoir, effectivement, représentation de quoi et à partir de quoi. Et quel est le peuple qu'on représente. Donc, l'histoire institutionnelle française, ça a été d'essayer progressivement d'affiner cette représentation. D'abord, il y avait la représentation du peuple, une projection du peuple à l'Assemblée. Mais après, on s'est dit, ça ne suffit pas. Donc, on va compléter par le Sénat. Le Sénat représente les territoires. Pas simplement les citoyens, mais les territoires. Et puis on s'est dit, ça ne suffit pas. Il y a le Conseil économique et social et maintenant environnemental qui représente les métiers, les savoirs, etc. Mais ça ne suffit pas, parce que la représentation, c'est une frénésie. Surtout dans une logique, une démocratie de sondage, où on a le sentiment que face à la représentation institutionnalisée, il y a une représentation qui est plus fidèle, en temps réel, comme on dit, immédiate, et qui est là. Le peuple, il est quelque part ici. Le peuple, il est là, on peut l'atteindre. Je pense que c'est cette illusion, alors c'est difficile, ne me demandez pas comment, mais de cette illusion dont il faut effectivement sortir. L'idée que le peuple existe quelque part. Le peuple n'existe en vérité nulle part, ni dans la rue, ni à l'Élysée, ni à l'Assemblée. Je pense que le peuple, fondamentalement, est une procédure. Encore une fois, les quatre temps que j'évoquais, c'est ça le peuple. Le peuple, c'est cette procédure qu'il faut adopter sans être absolument certain du résultat. Donc c'est cette frénésie de la représentation qui est pour le moment le symptôme le plus fort de la crise de la démocratie dont vous parliez.
Cette frénésie de la représentation, Gérald Brunner, elle n'est pas forcément compatible avec le calendrier politique, le calendrier électoral. C'est-à-dire que, par exemple, quand on élit les députés, on les élit pour 5 ans. Or, il peut y avoir nécessité, parfois, d'organiser des consultations à l'intérieur de ces périodes. Idem pour la présidentielle. Il y a par exemple le parti de gauche qui organisait ces jours-ci une votation citoyenne. Ça s'est terminé hier sur leur site pour la révocation des élus en disant ben voilà, il faudrait pouvoir révoquer des élus durant leur mandat. Mais il y a des outils qui existent. Par exemple, le référendum. Le référendum, ça peut être un outil pour relégitimer en cours de mandat certaines décisions ou en tout cas certains élus. Est-ce que c'est une piste qui peut être intéressante? Elle est abandonnée en tout cas aujourd'hui depuis quelques années en France.
Oui, c'est une piste qui est dans notre constitution. Donc, mais vous remarquerez que quand même dans l'histoire politique, on a pris cette possibilité avec beaucoup de pincettes. Parce que gouverner par référendum, c'est aussi pouvoir carrément basculer dans la démagogie, voire dans le populisme, si vous voulez. Je ne suis pas sûr que si François Mitterrand avait fait un référendum sur la peine de mort, par exemple, il aurait obtenu plus de 50% pour l'abolition de ce qu'on considère aujourd'hui comme une avancée morale de notre société. Donc en fait, je crois que c'est vrai, la question de la participation, comme toutes les revendications démocratiques, quelle que soit leur forme, elle peut avoir quelque chose de métastatique, en quelque sorte. Il faut faire très attention à cela, parce que les grandes revendications démocratiques qui sont « j'ai le droit de dire, j'ai le droit de savoir, n'est-ce pas, et j'ai le droit de décider », se déclinent aujourd'hui, qui ont existé depuis l'origine, hein, dans les grands textes des orateurs de la Révolution française, on trouve ce type de revendication dans le fond, et on faisait du peuple une sorte d'argot à sans yeux qui nous regardait, qui pouvait nous regarder, qui pouvait contrôler le pouvoir politique. Ça, c'est une mise en scène du peuple comme contre-pouvoir politique qui est tout à fait utile. Seulement aujourd'hui, nous avons les moyens, en quelque sorte technologiques, de donner un corps à cette surveillance de tous les instants. Et si on a parlé de la démocratie participative comme solution possible, c'est celle qui est donnée à la crise politique que nous sommes censés traverser et qui semble quand même assez réelle, eh bien, la question de la transparence est une autre solution qui a été proposée, n'est-ce pas ? La surveillance de la décision, la transparence de cette décision, éventuellement le raccourcissement des mandats est quelque chose qui est mentionné. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller dans ce sens. Personnellement, je serais plutôt pour un allongement paradoxal des mandats, ou en tout cas celui de la présidentielle, et pour un mandat qui ne pourrait pas se renouveler. C'est-à-dire finalement un décideur qui serait en quelque sorte soulagé de la dictature, du regard, ou plutôt de la représentation qu'il se fait de l'opinion publique.
Fabienne Brugère, dans Faut-il se révolter, vous écriviez notamment ceci: le vote n'est que rarement réfléchi, l'expression qui l'autorise est très ponctuelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait peut-être pour vous aussi raccourcir les mandats pour pouvoir voter le plus souvent possible, donc être consulté le plus souvent possible, donc légitimer les décisions le plus possible ?
Le vote, je crois... Et de plus en plus dans l'immédiateté, il est de plus en plus pulsionnel. Et donc de plus en plus, on donne en quelque sorte une sorte de permis de gouverner qu'on change et on change après de gouvernant. Et donc je crois que le vote, c'est un beau principe. Hein. Le vote, c'est un beau principe, c'est l'égalité des voix. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à établir une démocratie. Parce que pour établir une démocratie, il faut aussi justement connaître un certain nombre d'usages. Il faut aussi faire avec les acteurs. Il faut aussi faire avec l'épaisseur d'une société civile. Et moi, je serais d'accord pour qu'on réhabilite ce mot de société civile qui renvoie à des savoirs, qui renvoie à des personnes qui sont impliquées dans une cité, dans un métier, dans une vie. Et donc, le vote renvoie certes à l'élu, il renvoie certes à la représentation, mais il ne suffit en aucun cas à définir la démocratie, de la même manière que effectivement on peut imaginer un allongement des mandats, et peut-être que ce serait intéressant, de la même manière on aurait intérêt à envisager un non-cumul des mandats, mais ça ne suffit pas. Par ailleurs, c'est important, mais ça ne suffit pas, à mon sens, à définir la démocratie.
Le vote, vous dites, c'est pulsionnel, donc ça ne permet pas d'aller. Ça ne permet pas d'aller dans la complexité des choses. Et par exemple, quand on vote à la présidentielle, quand on vote pour François Hollande, on ne vote pas forcément pour le programme de François Hollande, pour la totalité de son programme.
C'est-à-dire que je renverrai là-dessus aux analyses d'Hirschman qui sont intéressantes. Au moment où Hirschman a pensé cette notion justement d'épuisement politique, et le fait que parfois se limiter au vote, c'est se limiter simplement à un petit moment politique, mais parfois aussi parce que justement on a été épuisé par des engagements qui n'ont mené à rien, parce que le problème de la participation et le problème de ces types aussi d'engagement que l'on demande aux citoyens, c'est qu'en revanche, ils ne mènent à rien. S'ils échouent ou s'ils sont du côté de la manipulation, eh bien, on a un épuisement, en quelque sorte, des citoyens, des habitants, parce que ça demande du temps, précisément, ce genre de choses. Et à ce moment-là, on revient sur le vote et on vote simplement parce qu'on est content, parce qu'on n'est pas content. Et il y a de ce point de vue-là un vrai risque qui, je crois, guette vraiment nos pays.
Pour rester sur François Hollande, puisque je voulais vous amener sur une autre de ces décisions qui me semble être peut-être un cas d'école intéressant qui pourra peut-être rentrer dans votre cadre de réflexion, Pierre-Henri Tavoyot. On a beaucoup parlé de légitimité donc ces derniers temps par rapport à Notre-Dame-des-Landes et par rapport au barrage de Sivens, mais il y a eu l'an dernier une forte contestation d'une mesure emblématique du quinquennat de François Hollande, c'est le mariage pour tous. Cette décision, la loi Taubira, elle a été annoncée comme légitime parce qu'elle faisait partie du programme du candidat Hollande et en même temps considérée comme illégitime parce qu'elle produisait une contestation extrêmement importante de ses fondements. Alors comment est-ce qu'on réussit à naviguer entre ces deux légitimités-là ?
Moi, je trouve que sur ce débat, contrairement à ce qu'on entend, le débat était de qualité. C'est-à-dire que je trouve que c'était un débat très intéressant et très important pour la société. On a parlé de la famille, des évolutions de la famille. Du point de vue sociologique, c'était quand même essentiel. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas évoqué.
Donc il y avait la délibération, c'est ce que vous dites ?
Voilà, le moment de délibération était, me semble-t-il, très intéressant, très important. Il était évidemment passionnel et a été très, très intense. Bon, il y a eu le moment de la décision. Donc dans ce cadre-là. Et il y aura le moment de la reddition de compte qui viendra et on verra. Et je pense que c'est très plausible si la droite, s'il revient au pouvoir, revient en arrière sur cette question. Ça me paraît très peu possible, même s'il y aura sans doute une petite mesure symbolique. Mais voilà, donc là, typiquement, on avait effectivement un débat, ça a été beaucoup de passion. Il y a eu le sentiment, effectivement, d'un poids idéologique au-delà des arguments qui se posait sur la société. Donc il y a eu une suspicion. Il y a eu aussi l'idée que ce n'était pas forcément le bon moment de faire ça. Enfin, il y a toute une série d'arguments, mais peu importe. Le débat a eu lieu. Ce que je voulais dire, plus généralement, par rapport à notre débat, c'est que d'une certaine façon, nous sommes tous des libéraux, au sens où le libéralisme, c'était l'idée que nous avons une vision fantasmée du pouvoir et nous cherchons à limiter le pouvoir. Le principe même du libéralisme, c'est la division du pouvoir. On va éviter, pour que le pouvoir ne soit pas absolu, on va faire en sorte que le pouvoir joue contre le pouvoir. Alors, je suis libéral, je le dis nettement, mais je me demande si aujourd'hui, après l'abus de pouvoir, nous n'avons pas à lutter contre les abus de contre-pouvoir. Là aussi, ce n'est pas très politiquement correct, mais je me demande si, dans une mesure, certaines mesures, aujourd'hui, nous n'aurions pas intérêt plutôt à protéger le pouvoir, protéger la décision, comme je disais tout à l'heure, voire, pardon, défendre les hommes politiques, parce que dans l'ensemble, ils sont, je pense, plutôt de qualité, plutôt que de vouloir encore diviser davantage le pouvoir, peut-être par des procédures participatives. Donc je serais plutôt dans une logique républicaine, si vous me permettez cette expression, par rapport à un libéralisme que, par ailleurs, auquel j'adhère.
Sachant ce que vous écrivez, Gérald Bronner, j'imagine que vous n'allez pas être contre cette idée d'abus de contre-pouvoir.
Oui, non, pas du tout. Je pense que les contre-pouvoirs sont absolument essentiels à la vie démocratique. On est bien d'accord, je me sens libéral, moi aussi, dans la définition que vient d'en donner Pierre-Henri Tavaillot. Mais,
c'est le soir des coming out, là.
Hein. Ouais, bah, c'est assez curieux que ce soit considéré comme un coming out problématique. Mais enfin, bon, passons cela. Passons sur la représentation. Là aussi, il y aurait toute une émission à faire sur la représentation de ce que croient les gens à propos du libéralisme. Enfin, bon, peu importe. Disons qu'effectivement, je pense que ce qui fait la qualité d'une vie démocratique, c'est l'équilibre entre le pouvoir et les contre-pouvoirs, mais aussi les commentateurs, enfin plutôt les commentaires à propos de ce contre-pouvoir. Moi, c'est ça qui me marque et qui font, ça fait partie des contre-pouvoirs, les commentaires que l'on adresse à ces contre-pouvoirs, je veux dire.
Des commentaires trop critiques ou trop élogieux? Ou c'est pas sur ce registre-là?
C'est-à-dire la mise en scène de ce que tel ou tel contre-pouvoir serait plus légitime d'un point de vue démocratique que l'autre. Par exemple, j'ai entendu peu de commentateurs, et d'ailleurs je suis content de ne pas en avoir tellement entendu, parce que je serais plutôt de cet avis-là, pour considérer que le fait de mettre 1 million de personnes dans la rue, ce qui est considérable, je crois qu'à l'acmé de la contestation du mariage pour tous, il y avait 1 million de personnes dans la rue, que cela était une contestation manifeste, ou plutôt une enfreinte à la démocratie, que de maintenir cette loi.
Voilà. Donc en gros, les contestataires du barrage de Sivens seraient considérés comme plus légitimes que ceux qui contestaient le mariage pour tous?
C'est évident. Ça me paraît évident. Dans le premier cercle des commentateurs, c'est évident. Enfin, je veux dire, il faut avoir été aveugle et sourd pour ne pas l'entendre. Mais moi, j'essaye d'être cohérent. Dans les deux cas, je n'entends pas cette opposition-là. Il ne suffit pas de mettre, pourtant c'est considérable, beaucoup de personnes dans la rue pour pouvoir contester comme cela une loi qui a été votée par les députés de la République.
Ça pose un vrai problème, Fabienne Brugère, justement. C'est deux types de contestations qu'on a du mal à placer sur le même plan.
Ben, je crois que le mariage pour tous, effectivement, 1 million dans la rue, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est quelle conception l'État et quelle conception un gouvernement se donne-t-il du mariage, se donne-t-il de l'union civile? Est-ce qu'il considère que c'est avant tout une union entre deux personnes, entre deux individus, et on peut même le lire de manière libérale, ou est-ce qu'on considère que le mariage est fondé sur la loi immuable de la différence des sexes? Et c'est là-dessus qu'effectivement un pouvoir doit trancher dans son récit démocratique, et c'est pas le nombre de manifestants qui doit faire le récit.
Il n'y a pas une masse critique d'opposition qui fait qu'une décision devient illégitime?
Ça, je ne suis pas sûre. En revanche, ce qui est vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas eu tout à fait suffisamment de débat. Je suis pas convaincue que le débat sur le mariage pour tous ait vraiment été de qualité et qu'il y ait vraiment eu une possibilité justement de discussion entre ceux qui étaient contre le mariage pour tous et ceux qui étaient pour le mariage pour tous. Je crois qu'un esprit démocratique sur cette question-là, ça serait la possibilité de faire discuter ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. Et ça, je crois que ça a quand même été, ça a quand même été très, 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 très difficile.
La bonne procédure, je pense, ce sera encore différemment, ce serait de demander à ceux qui sont pour d'argumenter comme s'ils étaient contre, et à ceux qui sont contre d'argumenter comme s'ils étaient pour. Je trouve que ça serait une bonne démarche, parce que ça permettrait, sous la forme d'un jeu, d'abord à dédramatiser la chose, mais ça permettrait de voir ce qu'il y a de légitime dans la position de l'adversaire. Si on, je propose, s'il y a une émission de radio où vous demandez justement...
C'est une excellente idée.
Ce qui est la dispute à Sio, ce que je pratique à la Sorbonne, ou ce qu'on pratiquait jadis, demander aux gens de jouer à contre-jeu. Proposez ça, vous verrez, ce serait très intéressant. Et de demander, voilà, dites contre quoi vous êtes. Et je pense que là, on est dans le débat démocratique.
Ça vous dirait d'y participer à ce petit jeu, Charles
Brunet ? Absolument, et je suis d'accord sur les vertus cognitives que ce type de procédure peuvent avoir, mais elles sont utilisées. D'ailleurs, je pense que vous le savez, quelquefois, c'est utilisé notamment dans les processus de délibération, ce qu'on appelle la procédure de l'avocat du diable, ou de la mort subie. Alors, on imagine le pire d'un scénario qui seraient les conséquences de la décision qu'on vient de prendre, et on s'aperçoit que cela tempère un optimisme excessif.
Et bien, attendez-vous à ce que peut-être bientôt on vous propose justement à tous les trois de participer à ce jeu. Je trouve qu'effectivement c'est une très bonne idée, puis il faut être un minimum motivé là aussi, comme pour participer à certaines décisions. Donc voilà, on vous retient donc tous les trois, Fabienne Brugère, Pierre-Henri Tavoyot et Gérald Brunet. Merci en tout cas d'avoir participé à cette discussion. Vos références bibliographiques multiples sont sur notre site franceculture.fr, la page du Gramout, sur laquelle se poursuit la discussion à travers vos commentaires. Demain, la question que nous poserons à partir de 18h20: faut-il déjà être riche pour faire fortune dans le vin ?